Matière à penser, Frédéric Worms.
Matière à penser, ce soir notre deuxième rencontre autour d'autres idées de l'Europe. L'Europe, ça n'est pas un fait évident, objectif. C'est une idée et peut-être même plus d'une idée, plusieurs idées qu'il nous faut discuter. D'autres idées de l'Europe, ce soir une idée notamment africaine de l'Europe, avec et grâce à Salim Abdelmadjid, philosophe, qui a récemment dirigé la publication d'un numéro important de la revue Noésis, tout simplement intitulé Europe. Bonsoir Salim Abdelmadjid.
Bonsoir Frédéric Worms, merci de votre invitation.
Merci à vous de l'avoir accepté, d'être là ce soir. Alors Salim Abdelmadjid, il y a un effet d'illusion ou un effet un peu trompeur dans la présentation que je viens de faire du volume que vous avez dirigé. Et c'est un volume d'une revue de philosophie théorique avec comme titre un concept grec, la noésis, la connaissance, et puis le titre est très simple, l'Europe. Et puis dès qu'on l'ouvre et qu'on lit votre présentation, on s'aperçoit qu'en fait c'est un peu tout le contraire. C'est-à-dire il n'y a pas une idée simple de l'Europe sous un concept grec classique. Ce que vous voulez nous montrer, c'est qu'au contraire on a besoin d'autres idées de l'Europe, pour reprendre le titre que je proposais pour cette série, et qu'il faut voir l'Europe d'ailleurs, de beaucoup d'ailleurs. Il y a des articles sur l'Europe du Japon, le vôtre sur un concept africain d'Europe. Alors avant de revenir sur l'Afrique, pourquoi est-ce qu'on doit voir l'Europe de plus d'une idée, de plus d'un point de vue, Salim Abdelmadjid?
Oui, peut-être que pour répondre à cette question, je peux vous donner la raison de ce numéro sur l'Europe, dont le choix résulte du constat de l'accumulation des crises européennes depuis plus de 10 ans, dont la violence et l'imbrication sont telles qu'il nous a fallu faire l'hypothèse que ces crises européennes relevaient d'une crise plus profonde de l'Europe en tant que telle.
C'est-à-dire que c'est pas seulement effectivement des crises comme si on parlait d'événements, c'est une crise qui dure aussi longtemps et qui se reflète à travers des événements aussi graves et successifs que la crise économique, la crise des réfugiés ou des migrants. C'est plus qu'une crise événementielle. Ce serait une crise structurelle, Salim Abdelmadjid.
Oui, et l'analyse de chacune de ces crises requerrait donc un examen global. Et ce qui nous intéresse, une fois que l'on fait ce constat, c'est de constater en même temps qu'il a été fait régulièrement dans l'histoire de l'Europe. En 1935 déjà, Husserl, dans La crise de l'humanité européenne et la philosophie, parlait donc d'une crise de l'humanité européenne et faisait d'ailleurs lui-même référence à la récurrence de ce thème.
Oui, mais alors justement, Salim Abdelmadjid, vous qui êtes philosophe à l'EHESS, je vais le rappeler progressivement, vos travaux personnels, vous avez fait une thèse sur le concept d'Afrique, est-ce qu'on peut penser l'Afrique sous un concept? Est-ce que l'Afrique n'est pas aussi une idée et un concept? Vous contestez cette évidence de l'Europe dans la philosophie des années 30. Husserl, le fondateur de la phénoménologie, qui justement donne à ces concepts, même allemands, des mots grecs, comme la noésis, voit dans l'Europe avant tout une source unique, la Grèce, la philosophie avec un grand P pour la pensée. Vous êtes philosophe, mais j'allais dire avec un petit P revendiqué, c'est-à-dire au fond, et une pluralité d'idées. Donc vous contestez ce traitement-là de la crise par la philosophie avec un grand P, par l'Europe avec un grand E et le grec comme langue unique.
Oui, oui. Et d'ailleurs, la récurrence de la récurrence de la crise de l'Europe qu'il identifie est sans doute le signe que l'élucidation qu'il proposait ne convenait pas.
Mais c'était laquelle? Husserl en 38 à Vienne, c'est quand même pas nulle part et n'importe quand.
Oui, oui.
Diagnostic.
Il propose une conférence qui a ce titre, La crise de l'humanité européenne et la philosophie, en conclusion de laquelle il propose d'élaborer un concept d'Europe, comme je le cite, téléologie historique des buts infinis de la raison. Alors, pour comprendre cet énoncé.
Oui, déplions-le un peu.
Il faut comprendre que Husserl rattache l'Europe contemporaine, dont la crise est d'abord manifeste pour lui à la montée des totalitarismes, à la Grèce ancienne et en particulier à l'apparition de la philosophie dans la Grèce ancienne. Ce qui est difficile à admettre à un point de vue à la fois à mon sens philosophique, mais aussi à un point de vue historien, à un point de vue géographe, c'est la continuité et l'exclusivité qu'il établit entre la philosophie en Grèce ancienne et la situation de l'Europe contemporaine, comme s'il y avait une identité de l'Europe et de la philosophie.
En fait, il raccorde d'un coup effectivement des violences politiques contemporaines et ce à quoi ces violences sont censées faire violence, qui est une idée presque intemporelle, enfin, qui est quand même née en Grèce selon lui, mais qui est une idée où l'Europe incarnerait la raison avec un grand R. Finalement, vous voyez une grande violence dans ce diagnostic, dans ce choc où, entre finalement le totalitarisme d'un côté et puis une Europe idéale, rationnelle, pure, et dont la raison serait le privilège, au fond.
Oui, à mon sens, Husserl est prisonnier et tombe dans le piège de l'ethnocentrisme qu'il essaie précisément de pointer et de critiquer dans les totalitarismes et dans celui dont il est lui-même victime. Ce qui ne peut pas convenir, c'est le monopole de la raison affirmé par Husserl pour l'Europe. Alors, dans la crise des totalitarismes qui l'identifie, il analyse une manifestation d'une crise plus profonde qui est, au fond, une crise du sens. Et c'est pour ça que la philosophie est requise comme médecine, pour lui, à ce moment-là.
Comme c'est la philosophie qui définit l'Europe, porter atteinte à l'Europe, c'est faire violence à la philosophie, et la philosophie doit revendiquer, finalement, l'idée de l'Europe. Et au fond, selon vous, Salim Abdelmajid, est-ce que c'est aussi inconsciemment solidaire des violences dont l'Europe s'est faite peut-être l'auteur au même moment, par exemple dans l'expérience coloniale? Est-ce que, sans le vouloir peut-être, mais consciemment ou non, en refusant même de les relier, Husserl et les philosophes rationalistes des années 30 rendent la philosophie solidaire des crimes de l'Europe?
Avant de venir à ce point qui est un point crucial, le fait colonial et le sens philosophique qu'on doit accorder au fait colonial, on peut ici commencer de répondre à la première question que vous posiez concernant la nécessité de mobiliser des perspectives extérieures à l'Europe pour la pensée. Le piège dans lequel Husserl tombe en identifiant l'Europe à la philosophie, c'est celui qui consiste à croire qu'une bonne compréhension de la situation européenne est possible seulement au point de vue européen. Et une des intuitions initiales de ce numéro, c'est que, de même que pour se connaître soi-même, on a besoin du regard
des
de l'autre,
autres,
les Européennes et les Européens, pour comprendre leur situation et les crises dans lesquelles, enfin, qui la caractérisent, ont aussi besoin, pour le dire vite, du regard des dehors de l'Europe, du regard africain, du regard indien et de tous les regards imaginables.
Donc au fond, Salim Abdelmajid, vous dites la réponse de Husserl dans les années 30 et de beaucoup de philosophes, c'est d'aller creuser plus loin dans l'essence de l'Europe, et c'est une essentialisation à sens unique. Aujourd'hui, ce dont on a besoin pour penser l'Europe, c'est plutôt de pluraliser des relations à la fois historiques mais aussi contemporaines, et de comprendre ce que l'Asie, l'Afrique, tous les autres de l'Europe disent de l'Europe, pensent de l'Europe, et même que le mot Europe ne peut pas se comprendre sans ces relations-là, finalement.
Oui, tout à fait. C'est un des points de départ de ce numéro et de la nouvelle méthode qu'on propose, en partie inspirée par des constats un peu similaires faits notamment en France dans les années 1980, 1990, éminemment par Deleuze et Guattari. C'est une méthode géophilosophique.
Alors rappelez-nous la géophilosophie, Salim Abdelmajid, vous qui avez fait une thèse de philosophie sur le concept d'Afrique. Donc c'est vraiment en acte, concept, ça renvoie vers la philosophie un peu quand même. Et Afrique un peu vers la géopolitique. La géophilosophie, ça consiste en quoi finalement?
Mais ça consiste à dire sans doute que la philosophie a étrangement pour objet premier la Terre, ou plus exactement les processus de territorialisation. La manière dont la Terre est faite territoire.
Dont les humains donnent sens à des partages de la Terre.
Oui, exactement. Et Enfin, ce terme et ce concept s'établit au début des années 90, par exemple dans Qu'est-ce que la philosophie de Deleuze et Guattari. Bon, ça résulte de recherches qu'ils mènent ensemble depuis longtemps, en partie en critique de ce qu'on a appelé l'idéalisme historique et qui a consisté, par exemple, pour conceptualiser l'Europe, à extraire de son histoire une supposée identité,
une essence,
condition pour Husserl, mais pour d'autres philosophes tels que Hegel ou Kant, condition de possibilité d'un concept. Et ce qu'on essaie de montrer, ce qu'essaie de montrer Deleuze et Guattari, ce qu'on essaie de montrer dans ce numéro, c'est que la géographie aussi doit être prise en compte, que l'espace aussi doit être pris en compte, et sous la forme en particulier des extériorités de l'Europe.
Mais alors justement, c'est une géographie, parfois on peut aussi essentialiser la géographie. Est-ce que l'essentiel est dans la distinction entre l'espace et le temps? Parce qu'on peut, avoir une vision de l'histoire très relationnelle, pas forcément essentialisante, et inversement, on peut avoir une version de l'espace très essentialisante. Certains vont naturaliser l'idée d'Europe dans l'espace. Est-ce que le cœur de votre projet, ça n'est pas toujours de dire le mot Europe lui-même n'est que l'autre d'autres mots? Par exemple, Europe ne peut pas se comprendre sans Afrique, sans Asie. Et vous avez même, vous référez dans votre propre article à l'invention des continents, qui est le titre d'un livre que vous citez. Finalement, cette invention de mots qui désigne des entités, mais toujours en fait par rapport à d'autres.
Ouais. Et vous avez raison de dire que le temps comme l'espace peuvent être utilisés pour essentialiser des entités qui sont d'abord politiques. Et précisément, ce qu'on essaie de démontrer, c'est l'importance toujours de l'articulation de l'histoire et de la géographie dans la pensée de ces entités. On pourrait dire que une des affirmations importantes de ce numéro, c'est en fait un rappel que les spécialistes de sciences sociales connaissent en fait très bien et que peut-être les philosophes doivent s'efforcer d'intégrer parmi leurs
philosophes
habitudes.
Philosophes et peut-être les citoyens aussi.
C'est que l'Europe, comme l'Afrique ou d'autres entités géographiques, résultent de constructions historiques, que leurs délimitations ne sont pas naturelles, que les délimitations de leur population ne sont pas naturelles non plus. Et la philosophie peut intervenir auprès des sciences humaines et sociales pour interroger le sens de ces constructions historiques. Et c'est là, je crois, qu'un concept est possible, plutôt que dans l'hypostase d'une identité en dehors d'une histoire un peu fantasmée, celle du miracle grec qu'on présentifierait dans l'Europe des années 1930.
Mais alors, Salim Abdelmadjid, vous-même, vous êtes très concrètement engagé dans une opération d'histoire, au fond, à travers ces notions. Ce que vous dites dans votre article, un concept africain d'Europe, c'est que l'Europe a inventé l'Afrique, finalement, comme notion, à travers justement le geste colonial, et que il faut peut-être critiquer ce concept d'Afrique, mais aussi maintenant s'en servir pour le retourner vers l'Europe, finalement, pour comprendre comment, en dépassant le concept colonial d'Afrique, et en l'assumant aussi, en le critiquant, mais en montrant qu'il a eu lieu, on peut comprendre la réalité de l'Europe. L'Europe doit se penser dans ce qu'elle a fait aux Africains aussi, et aux Africaines, c'est-à-dire pas seulement abstraitement entre des notions, mais il y a une histoire concrète de leur relation.
Oui, oui, exactement. Et peut-être qu'on peut faire référence, comme je crois que vous l'avez fait avec Souleymane Bachir Diagne au cours d'une précédente émission, à l'histoire du nom d'Afrique, qui est très utile pour penser l'histoire de la relation entre l'Europe et l'Afrique.
Le mot même, finalement.
Le mot même d'Afrique. On sait que le mot d'Afrique tel que nous l'employons dérive du latin Africa, qui a servi à nommer la province romaine, l'Africa Romana, au nord du continent, et que ça n'est qu'à partir du XVe siècle qu'au fur et à mesure de la circumnavigation...
C'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'Afrique du Nord, en fait, finalement.
Oui, le nord de l'Afrique, parfaitement. Et que c'est seulement au cours du XVe siècle et dans les siècles suivants, très progressivement, qu'au cours tout d'abord de la circumnavigation du continent, et puis de la lente et progressive pénétration du continent par les Européennes et les Européens, que le nom est étendu à l'ensemble de ce qui devient un continent en même temps, et de ses habitantes et de ses habitants. C'est en ce sens qu'on peut dire que l'Afrique, telle que nous la connaissons aujourd'hui, a d'abord été l'objet d'une construction européenne, qui est une construction coloniale.
Mais au fond, Salim Abdelmadjid, on a l'impression, en vous lisant, parce que vous allez très vite, effectivement, vers aussi une histoire de violence et de conflit, est-ce qu'on n'a pas l'impression, en vous lisant, que le mot européen. Dire qu'on est européen, c'est avant tout dire qu'on n'est pas africain. C'est-à-dire que vous insistez beaucoup sur cette dimension de négation, de négativité. Est-ce que très concrètement dans le langage, ce n'est pas un non-dit, finalement, être européen, est-ce que c'est avant tout ne pas être autre chose, et en particulier ne pas être africain? Est-ce que vous iriez jusque-là, Salim Abdelmajid?
Alors, je ne sais pas si j'irai jusqu'à cet énoncé, mais je pense en effet que ce sont des termes, ce sont des noms, ce sont des assignations d'identité et des auto-assignations d'identité qui, pour être bien comprises, doivent être étudiées dans leurs relations. Et je pense que...
Donc européen, africain.
Oui, et je pense que de même que pour ces catégories continentales, il y a en effet un effet recherché de contrariété. On le trouve également dans le domaine de ce qu'on a appelé à l'époque coloniale la race. Et il y a dans...
À travers la couleur de peau, par exemple.
On a dans le contraire du noir et du blanc, le passage dans le langage d'une asymétrie de pouvoir extrêmement violente. Et sans doute que l'Europe, pour être délimitée, pour être pensée, a dû référer à une anti-Europe imaginaire, l'Afrique elle-même construite dans le cours de la colonisation.
Et pour vous, ce retour aujourd'hui à un concept africain d'Europe, c'est évidemment pour défaire une idéalisation de l'Europe, montrer ce qu'elle a été réellement dans ses relations avec les autres, mais c'est pour revenir vers une autre idée de l'Europe. C'est, vous ne renoncez pas à l'idée d'Europe, vous ne faites pas que revenir de façon critique à son histoire. Depuis cette histoire critique, depuis l'Afrique ou l'Asie d'ailleurs, comment est-ce qu'on peut reconstruire une autre idée de l'Europe?
Oui, mais je pense qu'il y a deux conditions au moins à satisfaire pour élaborer un concept d'Europe, et qui sont pour la première la justification de ce qu'il y a d'unité dans l'Europe. Ça ne va pas de soi, ce qu'on appelle le continent européen est parcouru d'une multiplicité incalculable de différences. Et puis il y a aussi l'universalité du concept. Si l'on tient à son ancrage empirique, cela signifie la mondialité
d'Europe.
Ce que je veux dire par là, on pourrait dire simplement que par concept, on entend ici un mot et une idée. Et donc on se pose la question, en recherchant un concept d'Europe, on se pose la question de savoir quelle idée peut correspondre au nom d'Europe.
Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Si on dit qu'il y a l'Europe, qu'est-ce qu'on veut dire?
Et il me semble qu'une des conditions pour y parvenir, en plus de répondre à la question de savoir ce qui fait l'unité de l'Europe, c'est de considérer l'Europe toujours dans l'horizon du monde. Et alors, l'Afrique peut donner à l'Europe la possibilité de se penser relativement au reste du monde, non pas comme extérieur au reste du monde, comme dominant du reste du monde, mais comme une partie parmi les parties en situation de contribuer à faire le monde.
Donc finalement, il faudrait résister toujours à la tentation husserlienne. Enfin, vous avez pris l'exemple de Edmund Husserl, finalement, comme parmi d'autres, mais cette tentation qui consisterait à définir l'Europe par une idée pure, l'Europe c'est ceci ou cela, la philosophie, l'expérience, disons, religieuse de telle ou telle religion ou ensemble de religions, mais toujours la définir relationnellement. C'est-à-dire, l'Europe est une partie d'un tout et on ne peut jamais la définir seule.
Voilà. Et ce sont des relations qui se trouvent avoir été des relations de domination, des relations de très grande violence. Donc la question qui se pose à mon sens aujourd'hui et qui est toujours en arrière-fond des crises que nous connaissons, en particulier de la crise des réfugiés qui me paraît être la crise des crises, c'est la question de savoir comment l'Europe peut surmonter des rapports de domination qui l'ont aliénée elle aussi.
Ce qui est intéressant dans ce que vous venez de dire, et même crucial, Salim Abdelmajid, si vous dites que la crise des réfugiés, et c'est une manière de la nommer, qu'il y en a d'autres, on pourra y revenir, est la crise des crises, est-ce que c'est parce qu'elle manifeste cette relation concrète? Ça se passe aux frontières, ça rappelle à l'Europe qu'il y a un monde autour, et aussi parce que ça a une profondeur historique, ça rappelle un passé, ça rappelle à la fois un espace et un temps de l'Europe. La crise des réfugiés est un révélateur d'une Europe réelle, concrète, dans une histoire et dans un monde.
Oui, oui, je pense que on ne peut pas, au moment de l'historiciser, pour la comprendre, ne pas faire référence au passé colonial, à ses conséquences jusqu'à présent, jusque dans les inégalités économiques, jusque dans les très grandes difficultés politiques rencontrées de l'autre côté de la mer. Et puis... c'est une crise qui manifeste en retour la très grande difficulté des Européennes et des Européens à intégrer le monde et à intégrer l'humanité. Et ce sont c'est le monde et l'humanité elle-même qui sont en jeu dans cette crise, et pour l'Europe, la capacité à entrer dans le monde, à faire partie du monde et à faire partie de l'humanité.
Alors, Salim Abdelmadjid, vous venez de dire ça avec une gravité qu'il faut partager, entendre. Je vais révéler un secret de fabrication. Normalement, dans cette émission, on demande aux invités de proposer un morceau de musique. Devant la gravité que vous venez de rappeler de la crise des réfugiés, vous vouliez qu'on ait un moment de silence. Il se trouve que techniquement, peut-être aussi pour d'autres raisons, c'est difficile, voire impossible. Vous avez donc consenti à nous proposer un morceau de musique que nous allons entendre maintenant et discuter ensuite avec vous, Salim Abdelmadjid, et donc d'abord cette musique.
Matière à penser, Frédéric Worms.
Matière à penser, d'autres idées de l'Europe. Ce soir, notre deuxième discussion autour notamment d'une idée africaine de l'Europe avec Salim Abdelmadjid, philosophe à l'EHESS, auteur d'une thèse sur le concept d'Afrique, mais aussi directeur d'un numéro de la revue Noesis sur l'Europe. Et Salim Abdelmadjid, vous venez de nous faire entendre, pour parler d'Europe, un morceau dont j'allais dire... qui délibérément, il ne sonne pas européen, qu'il vient d'ailleurs, qu'il est comme une autre langue dans la musique elle-même. Un morceau qui s'intitule « Amerli », où se mêlent, je crois, l'oud et le violoncelle comme deux cordes et deux continents, deux instruments à cordes. Est-ce que c'est le sens de ce choix, Salim Abdelmadjid, pour parler aussi avec gravité et parfois avec silence de ces crises, et notamment des réfugiés ?
Oui, mais... peut-être pour vous parler de ce morceau, je peux commencer par dire un mot de ce silence que je vous proposais.
Oui, vous aviez proposé donc pour au lieu d'un morceau de musique et pour parler de l'Europe et donc des migrants et des réfugiés, d'un moment de silence. Et pourquoi donc ce silence ?
Et il me semble simplement, comme à beaucoup, que le fait central de la situation européenne est la mort de celles et ceux qui meurent en mer pour rejoindre les rivages européens. Et lorsque vous m'avez demandé un choix musical, j'ai cherché dans ma mémoire une musique ou une chanson qui pourrait exprimer cela, et quelques-unes me sont venues, mais aucune avec la gravité nécessaire.
Suffisante.
Et j'ai pensé que c'était parce que le silence seulement pourrait exprimer cela, qui serait un silence de recueillement, un silence de rupture aussi, de la quotidienneté dans laquelle ces morts entrent, et un silence de réflexion, quant à ce que chacune et chacun peut faire dans la situation où elle il se trouve, et peut-être un silence d'action. Quand la chose réfléchit, il ne s'agit plus que de se taire et de faire.
Donc ça n'aurait pas été seulement, Salim Abdelmadjid, d'une minute de silence, comme on dit parfois dans un hommage ritualisé à des victimes ou à un sacrifice au nom d'une cause, ça aurait été un silence chargé de sens, chargé de plus d'un sens même.
Oui, en tout cas, le silence dont il me semble que nous avons besoin pour nous ressaisir, pour nous retrouver nous-mêmes, et le silence nécessaire à la réflexion. Et ce morceau de musique qui s'appelle Amerli a été composé par Hussein Rasim, qui est un musicien irakien qui joue de l'oud. Et dans le cadre d'un projet qui s'appelle Refugees for Refugees, et qui est un projet né en Belgique, et qui consiste à rassembler des musiciennes et des musiciens réfugiés pour leur faire travailler ensemble leur musique et les lier. Et Amerli est aussi le titre de leur premier album.
Amerli est le nom d'un... Amerli, c'est ce que j'allais vous demander en ignare totale que je suis.
Amerli est le nom d'une petite ville proche de Bagdad. D'accord. Qui a été singulièrement violenté en 2014. Et Hussein Rasim est irakien et il a fait jusqu'en Belgique le chemin des Balkans.
Cette crise des réfugiés, Salim Abdelmadjid, nous venions de dire avant d'écouter Amerli qu'il fallait y voir non pas une anomalie ou un problème extérieur qui surviendrait par hasard à l'Europe dans sa beauté et dans son essence, mais au contraire quelque chose qui révèle au fond la réalité de l'Europe, ses relations géographiques et historiques et politiques aussi avec le reste du monde, j'allais dire, c'est-à-dire justement avec un monde qui n'est pas n'importe quoi, qui a des relations précises avec l'Europe, parfois des relations négatives, qu'il faut ne pas nier, même si on veut les transformer, justement, Salim Abdelmadjid.
Oui. En fait, je dirais que face à cette situation, une fois que l'on s'est efforcé ou que l'on s'efforce de penser le sens de ce qui se passe en Méditerranée, il importe, et sans doute indissociablement, de s'efforcer de penser ce qui fait que face à cela, l'extrême droite s'étend et monte en Europe. Les nationalismes...
Alors, c'est par là que vous commencez. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au fond, ce phénomène de mort, d'abord parce que personne ne considère que la priorité, c'est de sauver ses corps, d'abord, est au fond l'enjeu d'une réapparition de mouvements qui, justement, nient cette relation au monde et qui réessentialise l'Europe pour nier cette
qui consiste cet à événement. Affirmer que nous ne sommes pas du même monde, que ces gens-là viennent d'un autre monde et qu'ils ne sont pas pareillement humaines et humains, que nous n'avons pas vis-à-vis d'elles et eux les mêmes obligations que celles que nous avons vis-à-vis de celles et ceux qui nous seraient plus semblables.
Oui, mais alors ça, Salim Abdelmadjid, ce serait, disons, la réponse universaliste, dire nous sommes tous du même monde, il faut sauver ces vies, et c'est à mon avis, comme au vôtre, le point essentiel. Mais vous y ajoutez non seulement une réponse universaliste, et ce ne serait pas seulement l'universel que nient l'extrême droite, les extrêmes droites européennes. C'est aussi des relations concrètes, c'est aussi des différences qui ont été construites. C'est aussi une responsabilité vis-à-vis de cette histoire et de cet espace. C'est pas seulement l'universel, c'est l'Europe dans sa singularité aussi qui est responsable.
Parfaitement. Et alors, tout en disant ça...
Donc il y a ces deux temps dans votre réponse.
C'est ça. Et tout en disant ça, peut-être qu'on peut faire une double distinction. D'abord, quant à l'alternative qui est face à laquelle nous sommes placés dans cette situation entre le refus d'accueillir et puis ce que serait un accueil, ce que cela engage de la manière dont l'Europe est au monde. La deuxième distinction que sans doute il nous faudrait faire, c'est une distinction au sein de l'Europe. En même temps que nous disons que nous constatons la montée des nationalismes, il faut constater également les résistances qui leur sont opposées. Autrement dit, nous ne pouvons pas réduire l'Europe, les Européennes et les Européens à cela. Mais ce que
donc,
je
veux dire, d'un côté, ouais, accueil ou non accueil, et d'un autre côté, position d'exclusion et résistance à ces exclusions.
Et sans doute que je vous disais que c'était la crise des crises de l'Europe, ouais, parce que elle est, à mon sens, son shibboleth, son épreuve révélatrice.
C'est un terme hébreu que vous employez là.
Son épreuve révélatrice.
Que Derrida, par exemple, a beaucoup utilisé, mais voilà, dites-nous quel sens vous lui donnez.
Le sens de l'épreuve révélatrice de ce que c'est que on appelle et on appellera Europe. Ce que manifeste notamment et peut-être éminemment la mort sans secours, bien souvent, de ces femmes et de ces hommes, de ces enfants aussi, c'est la contradiction qu'il y a entre le concept de monde qui suppose son unité et la réalité de ce monde, c'est-à-dire sa scission qui est éminemment révélée par la frontière qu'on peut tracer de Tijuana au Bosphore en passant par Gibraltar.
Frontière qui devient mortelle.
Qui devient mortelle et qui manifeste l'inexistence donc du monde. Si l'on veut prendre le mot de monde à la lettre, comme nous y a encouragé Alain Badiou dans Logique des mondes ou dans De quoi Sarkozy est-il le nom, je pense à lui et à ses titres parce que je me souviens d'analyse du concept de monde face à des situations comme celle-là en 2006 et en 2007 déjà qui nous permettent de nous rappeler que ces situations sont
alors il y a eu beaucoup de propositions sur cette notion de monde effectivement et vous dédiez d'ailleurs ce numéro à Étienne Tassin qui avait lui aussi proposé une idée du monde et de la cosmopolitique. Ce que vous voulez dire, c'est que les crises des réfugiés, la mort de ces êtres humains à devant des frontières nous fait réaliser l'absence réelle à ce moment-là de monde, mais aussi le besoin de monde, le besoin de ce que Étienne Tassin appelait la cosmopolitique, justement.
Oui, et
ça vous y croyez encore?
Oui, parfaitement. Et je pense que la question que cette crise, parmi les crises, nous oblige à poser quant à l'Europe, c'est la question de savoir si l'Europe peut et va contribuer ou non à l'existence du monde. Et il me semble que si l'on veut penser le surmontement des crises contemporaines de l'Europe, il faut réussir à penser non seulement les conditions de son unification politique, mais aussi les conditions de la relativisation de son unification politique dans l'horizon de l'unification politique du monde. Je fais partie d'une génération née en 1982 qui, enfant, adolescent, a été confronté à un discours politique qui consistait à présenter comme mission pour notre génération la réalisation de l'Europe.
Construire l'Europe.
Construire
après
l'Europe.
Les guerres du XXe siècle, sur lesquelles d'ailleurs il faudra revenir un instant.
Mais je crois que nous nous rendons bien compte que ce qu'il s'agit de faire en vérité, ça n'est plus tant construire l'Europe que construire le monde.
Construire le monde.
La question qui, il me semble, est posée à ma génération et aux générations qui viennent après la mienne, c'est celle de savoir si l'on s'intéresse à l'Europe et à son unité, comment construire cette unité pour autant qu'elle sert la construction de l'unité du monde.
Et qu'elle n'aggrave pas, au contraire, sa division ou sa destruction, c'est-à-dire, au fond, une Europe qui se barricaderait, se couperait du monde et finalement continuerait de se détruire elle-même, Salim Abdelmadjid, puisque ce que vous montrez aussi, c'est que il n'y a pas seulement l'opposition accueillir ou non accueillir, ça crée une division interne, potentiellement destructrice, et ça rappelle aussi des autodestructions antérieures. Dans votre article, vous avez un moment saisissant où, pour penser la crise des réfugiés, qui était, vous dites, une sorte de crime européen possible, en tout cas, il faut se rappeler aussi l'autodestruction européenne, et par exemple Auschwitz, comme étant finalement le signe que l'Europe est hantée par la division mortelle.
Oui. Ce qui est troublant, par exemple, en effet, dans l'effet interne que la crise des réfugiés a eu récemment, c'est en constatant la suspension de la Convention de Schengen, l'effet de division que cela a eu sur l'Europe.
Et cette crise, à proprement parler, de scission totale.
C'est ça. Et cet effet que l'on constate dans ce que l'on appelle la crise des réfugiés est un effet que l'on peut constater dans toutes les autres crises dont on fait mention depuis 10 ans. Dans la crise de l'euro, par exemple, ou de la zone euro, ou des dettes souveraines, suivant les appellations qu'on lui donne, et qui entraîne le même type d'irrationalité autodestructrice. Et donc, ce que nous essayons de faire dans ce numéro, c'est, considérant la situation présente dans l'horizon de la construction historique de l'Europe depuis le XVe siècle, c'est de montrer que cette manière auto-immune de faire, se diviser, se détruire, là où l'unité est possible et où l'universalité est possible, est récurrente dans l'histoire de l'Europe.
Manière auto-immune, vous voulez dire qu'au fond, c'est plutôt une pathologie de l'auto-immunité, c'est-à-dire au fond, l'Europe, en cherchant à se protéger, construit son propre poison interne, finalement, se détruit de l'intérieur.
C'est ça. Et sans doute que Auschwitz est le nom de l'autodestruction de l'Europe dans son histoire et du moment à partir duquel, au-delà duquel, il n'est évidemment plus possible de penser que l'Europe peut être le nom de l'universel. Et le pendant d'Auschwitz, ce que la Coulabart permet de montrer, ce que la lecture de Fanon en même temps permet de montrer, ce que la lecture de Césaire permet de montrer.
Ces auteurs que vous citez magnifiquement dans votre article, Salim Abdelmadjid.
Ah, dans l'expansion coloniale de l'Europe et dans les crimes qu'ils l'ont fait, un pendant externe. Division et autodestruction interne et destruction externe. Il s'agit de penser ce lien comme indissociable.
À chaque fois, Salim Abdelmadjid, vous vous placez sous l'horizon de la construction du monde, au fond, qui doit être l'horizon de la construction européenne. Vous n'êtes donc pas seulement dans l'idée d'une relation marquée par la négativité historique, par exemple, et c'est pas seulement un exemple colonial, vous êtes vraiment aussi dans l'idée quand même que construire le monde reste possible.
Nécessaire. Et il me semble que, du coup, ce que la philosophie est censée faire, pour autant qu'elle est politique, et on sait qu'elle l'est, que la politique fait partie de ses composantes, puisque c'est nécessaire, elle doit contribuer à le rendre possible. Et nous sommes, par d'autres aspects, celui des violences que nous constatons, celui de ce qu'on appelle autrement la crise climatique, par exemple, les crises économiques que nous avons connues, les conflits dont les potentialités sont toujours actuelles. Nous sommes confrontés à la nécessité de construire le monde et de dépasser les rivalités qui rendent étrangement pensable désormais l'autodestruction, l'autodestruction de l'humanité.
Salim Abdelmadjid, je cherchais en vous écoutant rappeler ces points majeurs, je cherchais une citation de Césaire que vous citez magnifiquement dans votre article et que je ne retrouve pas. Il y a en revanche, vous citez les derniers mots du livre de Frantz Fanon de 1961, de façon très marquante et préfacé à l'époque par Sartre, Les damnés de la Terre, et vous dites au fond, vous le citez, surtout ne transformons pas l'Afrique en une nouvelle Europe. Mais précisément, et je le cite littéralement, ce tout dernier paragraphe, pour l'Europe, pour nous-mêmes et pour l'humanité, camarades, il faut faire peau neuve, développer une pensée neuve, tenter de mettre sur pied un homme neuf. Ce qui me frappe beaucoup, c'est que ce trio, pour l'Europe, pour nous-mêmes et pour l'humanité. Est-ce que vous assumez ce trio aussi, Salim Abdelmadjid?
Oui, et Fanon comprend et explique que les révolutions indépendantistes africaines, que la puissance de critique faite à l'Europe coloniale par ces révolutions indépendantistes est de nature à libérer l'Europe de l'aliénation dans laquelle elle est prise elle-même en tant que coloniale.
L'aliénation qui continue de diviser l'Europe. Vous parlez, comme Jacques Derrida ou comme beaucoup d'auteurs, de ces spectres qui hantent l'Europe. Et pour vous, affronter ces spectres fait partie non seulement d'un devoir de mémoire en un sens un peu extérieur, mais d'une nécessité politique. Il y a une politique de la relation, une politique de la mémoire.
Oui, en fait, une des choses qu'on a essayé de démontrer dans ce numéro, c'est que un ensemble de dispositifs sont encore présents aujourd'hui, à commencer par la structure étatico-nationale, les rapports de rivalité entre les États-nations en Europe, dont le surmontement est nécessaire pour que ces crises elles-mêmes soient surmontées. Ce que je veux dire par là, c'est que, et je pense que c'est important de le dire pour la philosophie, pour les philosophes, c'est que ça n'est pas seulement une critique du discours, par le discours, qui est requise pour le surmontement des crises européennes, c'est une critique des structures, des institutions, par l'action et pour l'action, qui est appelée aussi.
C'est ce que j'allais vous demander, Salim Abdelmadjid. Vous critiquez, vous passez par, évidemment, les grandes épreuves de la négativité européenne. On pourrait vous dire, au fond, on est dans le négatif uniquement, et au fond, dans une étape où il faut demander pardon. Vous parlez du pardon européen. Le pardon européen, dites-vous, très fortement, est à demander au spectre de toutes les victimes africaines de l'Europe. Et la promesse européenne est à faire, outre les spectres, aux Africains et Africaines, aux descendants et aux descendantes des Africains et des Africaines. Ce que je voudrais entendre, c'est justement ce lien entre le pardon et la promesse. Est-ce qu'il y a encore une promesse positive de l'Europe? Est-ce qu'on peut sortir de ce que Césaire appelait, j'ai enfin retrouvé la citation, dans le discours sur le colonialisme, le cul-de-sac Europe? Qu'on le veuille ou non, dit Césaire admirablement, au bout du cul-de-sac Europe, je veux dire l'Europe d'Adenauer, de Schuman, Bidault et quelques autres, il y a Hitler. Et au fond, cette idée, si on n'assume pas d'aller jusqu'au bout de ce cul-de-sac, comment est-ce qu'on en sort de ce cul-de-sac? Et quelle promesse est encore possible, pas pour l'Europe seulement, mais pour le monde, à travers quand même aussi l'Europe?
Oui, mais je dirais qu'il y a deux orientations qui apparaissent, en tout cas pour la lecture que je fais de ce numéro et qui relèverait d'une promesse possible de l'Europe.
Promesse pratique et politique aussi.
Oui, d'abord celle qui tient à son unité, à l'effort d'unification politique, économique et sociale de l'Europe. Et deuxièmement, son ouverture. Ouverture de l'hospitalité, de l'accueil, c'est la question de... la révolution de ces politiques migratoires, ouverture aussi à son propre dépassement dans l'unité du monde. Et donc la question se pose pour les Européennes et les Européens, en matière très pratique de politique étrangère par exemple, de leur contribution aux réformes, voire aux révolutions nécessaires des institutions politiques internationales qui existent aujourd'hui, des institutions économiques internationales qui existent aujourd'hui. Donc ce travail qui consisterait à se positionner toujours dans toutes les asymétries de domination que nous constatons, à l'échelle globale comme à l'échelle locale, du côté des dominés, c'est-à-dire du côté de la force d'émancipation, c'est là l'orientation de la promesse de l'Europe, mais non seulement de l'Europe, mais en vérité de toutes les parties du monde, de toutes les aires que l'on pourrait vouloir délimiter.
L'Europe ne s'unifiera pas toute seule si l'on ne surmonte pas, au moins dans le principe, toutes les divisions du monde, Salim Abdelmadjid?
Oui, et puis les divisions internes à l'Europe, et il est bon de constater en ce moment les manières dont les sociétés européennes recèlent de capacités à transcender les frontières qui séparent les Européennes et les Européens entre eux, et les Européennes et les Européens du reste du monde.
Vous pensez finalement, un peu en dialecticien, un peu en politique, que cette crise des crises peut amener une réponse des réponses?
Mais en tout cas... elle est nécessaire. Elle est nécessaire et il s'agit aux philosophes, mais non seulement aux citoyennes et aux citoyens que nous sommes toutes et tous, d'essayer de la formuler et puis de la rendre pratique. Et ces deux orientations, l'unité et l'ouverture, les déclinaisons pratiques qui relèvent de l'unité et de l'ouverture, sont une conclusion qui pourrait être faite à partir de la lecture de ce numéro.
Je vous en remercie beaucoup, Salim Abdelmadjid, et on essaiera de poursuivre.
Merci beaucoup, Frédéric Worms.
Matière à penser, ce soir notre deuxième rencontre pour d'autres idées de l'Europe avec Salim Abdelmadjid, avec et grâce aussi à Joséphine Lampreya, Marie Lepeintre, Sandrine Chaperon, Catherine Denet, Anne-Pascale Desvignes, Frédéric Worms. Je vous donne rendez-vous demain pour une idée environnementale de l'Europe. Bonsoir et à demain.